Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Salazar, Juliette Gado, réalisée ce matin par Doria Zénine et mise en onde par Jean-Frédéric. Toute cette semaine, sur Culture Monde, nous allons interroger quelques grands dossiers qui touchent l'agriculture ici en Europe, mais également dans le reste du monde. Mardi, nous nous penchons sur le secteur laitier qui traverse une crise profonde qui affecte les relations entre producteurs, transformateurs et vendeurs. Mercredi, nous évoquerons la question des semenciers et de toutes les inquiétudes suite à l'annonce du rachat de l'américain Monsanto par l'allemand Bayer. Jeudi, enfin, nous essaierons de nous intéresser aux différentes voies par lesquelles l'agriculture mondiale tente de se repenser. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à l'agriculture européenne, un secteur bientôt amputé d'une bonne partie puisque l'un de ses membres a choisi de prendre le large. Après le Brexit, l'Europe au chevet de son agriculture, ce n'est pas sujet ce matin dans Culture Monde.
Je serais plutôt encline à encourager les fermiers à voter pour que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Dans le cas d'une sortie, leur futur me paraît plutôt incertain.
Je suis britannique, je suis anglais. Mon cœur me dit « sors de l'Union européenne ». Ma tête me dit « tu dois rester ». Je ne pense pas que le gouvernement du Royaume-Uni s'occupera autant de l'agriculture britannique que l'Union européenne.
Les fermes sont dans une très mauvaise situation économique. Beaucoup d'incertitudes qui n'ont pas été directement rassurées et assurées. Ne vous inquiétez pas, fermiers, on s'occupera de vous. Si ça n'arrive pas, il pourrait y avoir une véritable récession dans le secteur agricole britannique. Et ça s'annonce déjà mal.
Alors qu'on se prépare à quitter l'Union européenne, il est très important que nous aidions nos fermiers dans la continuité. C'est très important que nous ayons été capables de garantir à nos agriculteurs le même niveau de subvention agricole jusqu'à 2020.
Theresa May, nouvelle chef du gouvernement qui, après le vote pour la sortie de l'Union européenne, prenant la suite de David Cameron, tentait de rassurer des agriculteurs bien inquiets. Nul doute que le Brexit devrait avoir des conséquences sur l'agriculture britannique. D'abord parce que le Royaume-Uni pouvait compter jusqu'ici près de 4 milliards d'euros de subventions chaque année et qu'elle représentait 55% du revenu moyen d'un agriculteur britannique. Mais aussi parce qu'une sortie du marché unique imposera de nouvelles normes douanières qui pénaliseront irrémédiablement sa paysannerie. Et comme le rappelait un récent rapport du Lib Dem, le parti des libéraux-démocrates, ce sont près de 11 milliards de livres de produits agricoles qui sont vendus chaque année à l'Union européenne. La politique agricole commune a longtemps été au cœur des critiques contre l'Union européenne, à qui on reprochait son coût, environ 40% du budget européen, mais également la répartition inégalitaire de ses subventions. Le 13 août dernier, le gouvernement britannique, dorénavant dirigé par la conservatrice Theresa May, s'est engagé à les maintenir jusqu'en 2020. Mais selon quelles modalités et que se passera-t-il après? Un récent rapport du CPRE pour Campaign to Protect Rural England, la campagne pour protéger l'Angleterre rurale, plaidait pour une réforme du système d'aide. Aujourd'hui, 80% des versements vont à 20% des exploitations les plus grosses et les plus industrielles. Alors comment le Royaume-Uni va-t-il revoir son modèle pour faire face aux défis qui attendent ses agriculteurs? Et au-delà du Royaume-Uni, quelles conséquences pour l'agriculture européenne? En quoi la PAC pourrait-elle se voir transformée par le départ d'un de ses membres? Voilà la question sur laquelle on se penche ce matin. Et pour ce faire, une invitée avec nous en duplex depuis Montpellier, c'est Sophie Toyer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à Supagro, qui est une école d'agronomie de Montpellier. Vous êtes également présidente de la Société française d'économie rurale. Et puis vous êtes en charge d'un site qui s'appelle CapAI, qui est un site d'information sur la politique agricole commune. Alors on va commencer avec la Grande-Bretagne et les conséquences de ce Brexit pour l'agriculture britannique. Il y a quelques jours, le quotidien britannique The Guardian publiait un article dans lequel il était question des conséquences justement du Brexit sur l'agriculture. Alors a priori, en sortant du marché unique, les produits provenant de Grande-Bretagne vont subir des taxes d'importation qui pourraient mettre l'agriculture britannique en danger. Dans un récent rapport, je le disais tout à l'heure, le Lib Dem rappelait que c'était 11 milliards de livres de produits agricoles qui sont vendus chaque année à l'Union européenne. Première question générale, et puis bien sûr on détaillera les choses, mais quelles pourraient être selon vous les conséquences pour l'agriculture britannique de la sortie du marché unique?
Alors d'abord, la sortie du marché unique, elle n'est pas encore acquise. En fait, on ne sait pas très bien comment les Britanniques vont choisir de sortir des accords douaniers qui les rattachent aujourd'hui à l'Union européenne. Donc vous avez fait l'hypothèse que probablement on dénoncerait ce qu'on appelle la zone de libre-échange européenne et que donc les Britanniques sortiraient de cette zone de libre-échange. Effectivement, si c'est le cas, ça veut dire que l'Europe pourra imposer des tarifs douaniers sur les importations britanniques et certainement cela signifie qu'il y aura des réorientations des flux commerciaux entre les Britanniques et le reste de l'Europe.
Vous n'êtes pas convaincu par cette hypothèse ?
À vrai dire, j'en sais rien. On entend des partisans à la fois d'une sortie du Brexit qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire véritablement couper les liens avec l'Union européenne, y compris dans le domaine du commerce, et puis d'autres, évidemment, ceux qui étaient aussi les partisans du remain, de rester dans l'Union européenne, qui se défendent bec et ongles pour que cette sortie de l'Union européenne se fasse de façon plus soft, de façon plus douce et le moins impactante possible éventuellement pour l'économie britannique. Donc on n'est pas encore sûr aujourd'hui de ce qui va se passer.
On retrouvera tout à l'heure un eurodéputé, Marc Tarabella, et on verra justement quelles sont pour lui en tout cas les options qu'il faudrait suivre. On verra bien sûr s'il a raison ou pas, mais on l'interrogera tout à l'heure. On a beaucoup insisté, Sophie Toyer, sur le rôle qu'avait eu la question de l'immigration dans le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne. On sait bien évidemment que la crise des réfugiés, elle a pesé dans cette campagne. Pourtant, pendant de longues années, la PAC, elle a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des Britanniques, alors même qu'ils en sont également bénéficiaires. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que la politique agricole commune de l'Europe a joué dans les esprits des Britanniques pour quitter l'Union ? Quelle responsabilité pour vous dans ce choix du Leave ?
Ah, je pense que la PAC fait véritablement partie de l'ensemble des critiques qui ont été adressées par le peuple britannique à l'Union européenne. Et d'ailleurs, si on observe un petit peu le vote des agriculteurs britanniques, curieusement, alors qu'ils sont effectivement, eux, bénéficiaires de la PAC, c'est pas le cas de l'ensemble du peuple britannique, puisque le Royaume-Uni est contributeur net au budget européen, eh bien, ces agriculteurs britanniques ont voté plutôt majoritairement en faveur de la sortie de l'Union européenne. Alors pourquoi ? Bah parce que derrière, ils dénoncent, ce que dénoncent d'ailleurs d'autres agriculteurs européens, la complexité de la PAC, son manque de lisibilité, l'ensemble des contraintes qu'ils subissent, y compris environnementales ou autres, et qu'ils vivent comme une restriction finalement de leur droit d'entreprendre, qui est relativement fort. Particulièrement outre-Manche.
À l'approche du référendum, il y a un certain nombre d'agriculteurs britanniques qui sont descendus dans la rue pour dire leur inquiétude. On entendait tout à l'heure dans le petit son que vous avez entendu en introduction. On les comprend puisqu'ils bénéficient aussi de ces subventions européennes. Pourtant, quand on regarde la carte justement du Brexit, on voit que les zones rurales ont majoritairement fait le choix du Leave. Comment comprendre ce qui, en apparence en tout cas, ressemble à une attitude un peu schizophrénique ?
Eh bien, d'abord parce que je pense que, alors je suis pas une spécialiste de la, je dirais de la politique interne britannique, mais ce qui s'est passé certainement, c'est que les partisans du Leave ont beaucoup insisté sur le fait que l'ensemble du budget, puisque les Britanniques sont contributeurs nets, ça veut dire que dans le scénario de sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni économise tout ce budget qui n'ira plus à l'Union européenne et dont il estime, ou en tout cas ils ont promis, les partisans du Leave, de le redistribuer au sein du Royaume-Uni aux agriculteurs selon des règles qu'ils auraient eux choisies et qui n'auraient pas été choisies par les 27 autres membres de l'Union européenne. Donc ça explique en partie le fait que les zones rurales aient aussi voté en faveur du Brexit et que les agriculteurs aient suivi cela. Alors maintenant, on va peut-être y revenir plus tard, mais c'est pas si sûr. C'est-à-dire que les 4 milliards à peu près d'euros que versait la PAC aux agriculteurs britanniques, des gouvernements, alors peut-être pas celui de Madame May aujourd'hui, mais elle restera peut-être pas indéfiniment au pouvoir, pourrait être tentée de le réutiliser autrement, pour d'autres politiques, peut-être plus importantes que la politique agricole.
En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé au moment de la campagne. Et justement, après ce choix du Leave, regardez ce que Nigel Farage, qui était l'un des fers de lance dans cette campagne pour le Brexit, qui est l'ancien leader du UKIP, écoutez ce qu'il disait justement après donc le scrutin à propos de la réorientation de ces subventions. Écoutez.
Les 350 millions de livres par semaine que nous envoyons à l'Union européenne, que nous n'enverrons plus, pouvez-vous garantir que cet argent ira à la santé ?
Non, je ne peux pas. C'est une des erreurs de la campagne pour le Brexit.
Attendez une seconde. C'était un de vos arguments de campagne.
Non, ce n'était pas un de mes arguments de campagne.
C'était un des arguments de la campagne pour le Brexit.
Oui, effectivement.
Ça devait aller à la santé.
Et je pense que c'était une erreur.
C'était pourtant la raison pour laquelle les gens sont allés voter.
Oui, et ils se sont trompés.
Vous êtes en train de me dire qu'après que 17 millions de personnes aient voté pour le départ du Royaume-Uni, je ne sais pas combien de personnes ont voté à cause de cet argument, mais c'était une partie importante de la propagande. Vous dites maintenant que c'est une erreur ?
Nous avons 10 milliards de livres par an, 35 millions par jour qui sont libérés et qu'on pourra dépenser dans la santé, les écoles ou ce qu'on veut.
Voilà, donc un Nigel Farage bien embêté, hein, puisqu'il avait dit, lui, que tout cet argent serait réorienté. Essayons de voir justement comment est-ce qu'il pourrait être réorienté ou pas. Le chancelier de l'échiquier, qui est l'équivalent de notre ministre des Finances, Philippe Hammond, avait affirmé à la fin de l'été que les aides seront maintenues, les aides aux agriculteurs seront maintenues jusqu'à 2020. Est-ce qu'on a une idée justement des modalités selon lesquelles on maintiendrait, j'utilise au conditionnel, ces aides ? Est-ce que le gouvernement britannique pourrait débourser l'équivalent de ce que rapportaient les aides aux agriculteurs via la PAC ? Est-ce que c'est ça le scénario qu'on peut imaginer, Sophie Toyer ?
En tout cas, c'est le scénario qui a été promis aujourd'hui par Mme May. Au moins jusqu'à 2020, de maintenir le montant des aides tel qu'il était dans la PAC actuelle. Après, ce qu'on voit se développer très très rapidement, c'est un argumentaire très fort de différents groupes d'intérêts. Alors aussi bien des groupes d'intérêts qui défendent l'environnement, le patrimoine dans les zones rurales et qui, eux, sont en train d'argumenter en faveur d'une réorientation massive de ces aides-là, de cette enveloppe-là, même si elle restait la même, pour la rémunération finalement des services environnementaux fournis par les agriculteurs. Et puis des groupes d'intérêts qui avancent peut-être un petit peu moins ouvertement, mais qui défendent d'abord une période de transition plus longue et puis une distribution des aides qui reste finalement centrée sur une aide à l'hectare, ce qui est qui existe aujourd'hui et qui favorise grandement les très très grands propriétaires terriens qu'on a dans le Royaume-Uni.
Surtout qu'ils sont puissants, y compris dans le domaine politique, ces fameux groupes d'intérêt. L'année dernière, il y a une enquête de Greenpeace qui avait révélé que sur les 100 premiers bénéficiaires de subventions de la PAC au Royaume-Uni, plus de 20% étaient détenus ou contrôlés par une famille aristocratique. Les Britanniques avaient été un tout petit peu étonnés d'apprendre que leur reine, que le duc de Westminster ou encore le comte de Plymouth étaient dans le top 100 des bénéficiaires de la PAC. C'est une révélation évidemment qui avait un peu surpris et qui nous invite peut-être nous à nous interroger sur la manière dont les aides de la PAC sont réparties aujourd'hui en Grande-Bretagne mais dans le reste des États membres.
Aujourd'hui, en fait, alors les choses ont un petit peu changé. Il y a eu une réforme en 2014, mais finalement, on est encore dans une période de continuité depuis à peu près 2003. Les aides sont effectivement fournies quasiment sur une base par hectare. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire là, c'est que plus vous détenez ou vous exploitez de terres, plus vous touchez d'aides de la PAC. Alors, au Royaume-Uni, c'est particulièrement flagrant parce que il y a effectivement de très très grands propriétaires terriens. Et puis aussi parce que le Royaume-Uni a choisi une gestion assez libérale de ces aides, qui fait que on les distribuait jusqu'en 2014 sous forme de ce qu'on appelait des droits à paiement unique. Et ces droits, finalement, pouvaient s'échanger librement et quasiment indépendamment du foncier qu'on possède. Et donc, il y a eu une certaine forme de concentration des aides sur quelques grands propriétaires.
Oui,
exploitants.
Oui, puis ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que si de très riches propriétaires britanniques peuvent percevoir des subventions comme ils en perçoivent aujourd'hui, c'est que la PAC ne prévoit pas de plafond, ou en tout cas, chaque État membre est libre d'appliquer ou non un plafond. D'ailleurs, les Britanniques avaient fait partie de ces États membres qui avaient beaucoup pesé à l'intérieur de l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas de plafond obligatoire dans ce paquet de réformes de la PAC 2014, dont on va parler dans quelques instants.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu... Ça a été une grosse bataille, le plafonnement, parce qu'au moment où on a négocié la réforme de la PAC, la Commission européenne avait proposé un plafonnement des aides à 300 000 euros. Mmh. Au-delà de 300 000 euros d'aide, on ne touchait pas plus. Et ça a été négocié aussi bien d'ailleurs du côté du Parlement que du côté du Conseil des ministres. Et finalement, alors il existe encore une modulation, c'est-à-dire qu'au-delà de 150 000 euros, on touche un petit peu moins sur les tranches suivantes, mais il n'y a plus de plafonnement obligatoire, effectivement.
Est-ce que vous pensez que pour ce qui est de la Grande-Bretagne, et puis ensuite on va élargir au reste de l'Union, mais pour la Grande-Bretagne, est-ce qu'on pourrait imaginer que le gouvernement fasse le choix de cesser de subventionner les grosses exploitations, ou en tout cas d'appliquer des plafonds pour privilégier les petits paysans? C'est en tout cas le sens du rapport de cette campagne pour protéger l'Angleterre rurale dont je parlais, et c'est d'ailleurs une option qui a les faveurs de l'opinion britannique. Est-ce que ça vous paraît plausible ?
Aujourd'hui, j'ai du mal à le croire. Je crois que les groupes d'intérêt en faveur de, finalement, peut-être d'une certaine forme de verdissement des aides qui seront distribuées au Royaume-Uni sont assez forts pour faire valoir ce droit-là, mais que de l'autre côté, les grands bénéficiaires de la PAC, donc les grands propriétaires terriens, sont aussi très puissants. Donc l'idée d'un plafonnement, bon, peut-être que finalement elle sera mise en place. Je suis pas sûre qu'elle soit mise en place à 300 000 euros par exploitation agricole.
Sur les conséquences pour l'Union européenne, parce que donc il y a eu cette nouvelle PAC 2014-2020 qui est entrée en application en 2015. Peut-être que tout à l'heure on essaiera d'en faire un petit bilan. En tout cas, elle doit se prolonger en l'état pendant encore quelques années. Mais on peut imaginer que le départ de la Grande-Bretagne change un peu la donne et que tout cela va pousser les institutions européennes à anticiper des évolutions. Est-ce que vous pensez que le Brexit va modifier la manière dont les Européens en général gèrent leur politique agricole? Est-ce que vous pensez qu'il faut profiter du départ de la Grande-Bretagne pour d'ores et déjà remettre les choses à plat?
Ça serait une excellente chose. En fait, je pense que ça serait l'événement positif du Brexit. Alors, de toute façon, il va se passer quelque chose d'assez naturel. C'est qu'avec la sortie du Royaume-Uni, il va falloir repenser la question budgétaire. Puisque, quelque part, on a un trou de 10 milliards d'euros, puisqu'ils étaient contributeurs nets à peu près de ce montant-là, qu'il va falloir, si on veut garder le même budget européen pour la période 2020-2027, qu'il va falloir répartir entre 27 États membres. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'on va devoir repenser l'ensemble du budget européen, mais aussi, pourquoi pas, le budget alloué à la PAC. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que quelque part, les Britanniques ont toujours pesé dans la négociation sur la PAC, dans une certaine perspective ou direction très libérale d'un côté, très, très souvent en opposition d'ailleurs avec les idées françaises, vers une demande d'un budget amoindri, plus bas, et beaucoup plus centré sur la protection des zones rurales et la protection de l'environnement. Avec les Britanniques en moins, dans la négociation sur les futures évolutions de la PAC, eh bien, les partisans, peut-être de ceux qui sont d'un peu moins de libéralisme, d'un peu plus de régulation, dont on peut dire que la France fait partie, eh bien, reprennent du pouvoir à Bruxelles. Donc, ça peut changer un peu la donne. Et puis, l'autre chose.
Il y a déjà des discussions, justement.
Alors,
est-ce qu'on sent déjà poindre, justement, toutes ces évolutions?
Oui, un petit peu. Je crois que le sommet de Chambord, qui est un sommet informel qui avait été convoqué par Stéphane Le Foll pour réunir les autres ministres de l'agriculture de l'Europe en septembre, donc après le Brexit. Alors on a dit qu'il n'avait pas donné grand-chose, mais quelque part, il a quand même donné une autre orientation. D'un seul coup, ces ministres-là se sont mis d'accord pour, quelque part, dire à la Commission européenne « Voilà un petit peu les orientations qu'on aimerait voir apparaître pour la future PAC, pour les réformes futures ». Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord, hein, il y a encore une vision libérale et une vision plus régulatrice, mais on a un petit peu l'impression que les gouvernements reprennent la main dans l'orientation de la future PAC, et je pense que...
Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Eh bien parce que jusqu'à présent, on entendait finalement relativement peu une position commune exprimée par l'ensemble des ministres de l'agriculture des 28 États membres s'adressant directement à la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui a le pouvoir d'initiative, donc qui fait la proposition de réforme. Et là, on a une espèce de... les ministres s'expriment d'abord, plutôt qu'en réaction.
Il y a peut-être une chose effectivement qui illustre votre propos, c'est qu'il y a par exemple les paysans espagnols qui voudraient une prochaine PAC avec un outil de gestion de la volatilité des prix. On parlera demain de la crise du lait, qui demande aussi des dispositions pour augmenter la compétitivité du secteur agroalimentaire. Donc on peut penser effectivement qu'on se dirigerait vers une PAC peut-être plus interventionniste. C'est l'hypothèse qui semble là la plus probable.
Oui. Alors après, évidemment, vous avez aussi les Pays-Bas qui vont plutôt en sens inverse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rebat un petit peu les cartes Ça rebat aussi l'équilibre des pouvoirs au sein, alors d'abord au sein du Parlement, parce que finalement, lors du Brexit, ça veut dire qu'on n'aura plus de parlementaires britanniques au Parlement européen. Bon, je pense que vous avez un invité qui vous en parlera plus tard. Voilà. Et donc, probablement, une partie des parlementaires britanniques était peut-être plus en faveur d'une vision libérale de l'Union européenne.
Alors, oui, je vous en prie, allez-y.
Voilà. Et de l'autre côté, la PAC se décide à la fois par le Parlement, qui est co-décideur, et puis par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et donc, le poids du vote britannique s'envole à partir de, enfin, disparaît. Et donc, ça, comme je vous le disais, ça redonne un petit peu de poids aux régulationnistes.
Alors, il y a effectivement cette opposition entre la vision libérale et la vision, disons, régulationniste. Mais il y a aussi une autre chose, c'est tout simplement la philosophie de la PAC. Et aujourd'hui, cette philosophie de la PAC, elle est tournée vers l'exportation. Aujourd'hui, les exportations agroalimentaires, c'est à peu près 120 milliards d'euros par an. Ce qui veut dire que lorsque les exportations se portent mal, c'est toute la paysannerie européenne qui souffre. Est-ce que le Brexit, ça pourrait pas être aussi une opportunité pour revoir cette philosophie, pour réorganiser les agricultures nationales autour des marchés intérieurs, en privilégiant peut-être aussi les petites exploitations ?
Alors, peut-être, ça dépend de comment va se faire l'équilibre des pouvoirs. Par exemple, en France, vous pouvez entendre des grands syndicats majoritaires comme la FNSEA continuer à mettre en avant l'importance des financements européens pour promouvoir la compétitivité de l'Union européenne, la vocation de l'Union européenne à nourrir le reste du monde. Et c'est vrai qu'on entend aussi une autre voix pour défendre un autre modèle vers des plus petites exploitations, plus autonomes, et qui se retournerait plus vers le marché intérieur. Donc on a les deux voies. À la limite, les deux sont pas forcément incompatibles. On peut faire aussi les deux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la PAC aujourd'hui est beaucoup centrée sur quasiment 80% des aides sont des aides qui sont versées à l'hectare. Le problème, c'est que il n'y a pas de relation linéaire proportionnelle entre la taille des exploitations et leur contribution à la consommation alimentaire interne ou à l'environnement. Et donc, pour aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans un système d'aide qui privilégie l'agriculture, je dirais, plus centrée sur la consommation locale, par exemple, ou l'agroécologie. Un petit peu.
Et de ce point de vue-là, justement, la nouvelle PAC 2014-2020 n'a pas un peu changé les choses ? Sur la question des exportations, par exemple, est-ce qu'elle a permis, effectivement, à l'Union européenne de développer de nouveaux marchés ? Parce que c'était l'un des objectifs de cette nouvelle PAC. Est-ce que ça a fonctionné ?
Pas forcément. En tout cas, je peux pas faire de lien direct entre la nouvelle PAC et la capacité. On est plutôt d'ailleurs dans une situation où en tout cas pour la France, notre compétitivité a plutôt tendance à s'éroder sur les marchés externes. En revanche, ce qui est vrai, vous avez parfaitement raison, c'est que la nouvelle PAC a réorienté, ou a tenté en tout cas, de réorienter un petit peu les aides vers les petites exploitations, vers plus d'environnement. C'est ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC. Et donc, quand même, quelque part, il y a eu un petit changement de cap, qui se voulait d'ailleurs plus ambitieux lorsqu'il y a eu les premières propositions de la Commission européenne, dès 2010-2011, et qui, en fait, a été très affaibli par les négociations qui ont eu lieu avec les États membres, et même aussi un peu avec le Parlement. Et donc, on a finalement hérité d'une PAC qui a été votée en juin 2013, qui était beaucoup moins ambitieuse en termes d'amélioration justement d'aide aux petites exploitations ou aux exploitations plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement, beaucoup moins ambitieuses que ce qui était prévu initialement.
Et sur le verdissement, justement, dans sa version telle qu'elle est appliquée depuis 2015, est-ce qu'elle a amélioré les pratiques écologiques, le fameux verdissement qu'elle était censée engager, est-ce qu'il s'est produit dans les champs ?
Alors, pour la France, j'en doute fort. De fait, la question du verdissement, c'était quelque chose de relativement original. D'ailleurs, ça a été soufflé par les économistes britanniques et beaucoup repris par le gouvernement britannique. C'était l'idée que les aides de la PAC, ben finalement, c'est de l'argent public. Et cet argent public doit aller aux biens publics fournis par l'agriculture. Il faut rémunérer les agriculteurs pour les services publics qu'ils rendent à la société. Par exemple, la protection de l'environnement, l'entretien des paysages, le maintien des zones rurales, etc. Donc, à partir de ça, ce qui avait été décidé, c'était qu'une partie de ce des aides qu'on attribue aux agriculteurs puissent être conditionnées au respect de 3 mesures environnementales. Et la question, c'est que ces mesures environnementales, il fallait qu'elles soient les mêmes, puisqu'on est dans une politique agricole commune. Il fallait qu'on puisse inventer 3 mesures environnementales qui soient les mêmes, aussi bien en Finlande qu'à Chypre, qu'en Bretagne ou au fin fond de la Roumanie. Ce qui est un petit peu compliqué quand même comme exercice, parce qu'évidemment les modèles agricoles et les types de production sont très différents.
Sont très différents, bien sûr.
Voilà. Et donc du coup, ce qui a été donc il y a eu une proposition qui a été faite et qui a été progressivement démantelée, négociée état par état, et on a finalement accepté quelque chose d'un peu nouveau, qui sont que les mesures de verdissement peuvent être interprétées différemment d'un État membre à un autre. Voilà.
Justement, pour en revenir à notre sujet du jour, sur le Brexit, est-ce que vous pensez que ce Brexit, c'est une opportunité pour l'Europe pour verdir son agriculture? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a rien à attendre de ce point de vue-là?
Alors, donc, juste pour finir sur la question précédente, dans le cas français, on a finalement réinterprété les 3 mesures de verdissement de telle manière qu'en gros, rien ne change. Quasiment rien. C'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs de faire ce qu'ils faisaient déjà. J'ai juste un petit peu plus de paperasserie, mais c'est à peu près ça. Donc, l'effet additionnel du verdissement pour nous dans la PAC 2014 est quasi nul en France. Dans d'autres pays, c'est un peu différent. Maintenant, sur votre deuxième question, moi, je crois que ce qui va se passer, c'est ce qui va être très intéressant d'observer, c'est comment les Britanniques vont renégocier leur politique agricole, leur nouvelle politique agricole nationale. Et ça va inspirer, j'espère aussi un petit peu, ce qui va se passer dans le reste de l'Europe. Parce qu'on va avoir les yeux rivés sur les choix qu'ils vont faire. Et que quelque part, si les partisans au Royaume-Uni d'une réorientation des aides vers des pratiques agroécologiques et environnementales gagnent, alors ça sera une impulsion très forte, à mon avis, pour les partisans ou pour les partisans dans le reste de l'Europe, d'une réorientation semblable. Et donc on peut espérer qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger dans la PAC, parce qu'on regardera ce qui se passe chez les Britanniques.
Et pour que les choses bougent effectivement, il faut qu'on ait l'argent pour le faire. Quand on regarde la période 2015-2020, le budget de la politique agricole commune, il a baissé de 11%. Ça représente 38,5% du budget européen. C'est vrai, ça fait beaucoup, mais c'est quand même en baisse. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on aille vers de moins en moins de subventions? Est-ce qu'on se dirige irrémédiablement vers une PAC vidée de sa substance parce que sans moyens financiers? Ou en tout cas de moins en moins?
Alors aujourd'hui, la PAC, elle a encore beaucoup de moyens financiers. Hein. De moins en moins, c'est vrai. 38% du budget européen, c'est quand même pas... Ça reste encore de l'ordre de 50 milliards d'euros par an, c'est pas rien. On peut imaginer... En fait, c'était déjà le risque dans la PAC 2014. Et d'ailleurs, on le voit, on avait un peu baissé le budget, pas autant que ce qu'on redoutait. Justement parce qu'avec ce verdissement-là, on a sauvé le budget de la PAC quelque part. Dans les futures PAC, c'est possible, effectivement, que le budget petit à petit soit diminué. Mais il y a beaucoup d'argent. La question, c'est comment on l'utilise. Et donc, on peut faire une PAC encore peut-être plus efficace aujourd'hui avec moins d'argent. Vous voyez bien, quand on donne plusieurs centaines de milliers d'euros à des agriculteurs qui, finalement, n'en ont pas besoin, si on réoriente ces aides-là vers d'autres formes d'agriculture, vers d'autres types d'exploitation agricole, on peut être extrêmement efficace et continuer à orienter l'agriculture avec moins d'argent.
Après le Brexit, l'Europe au chevet de son agriculture, premier volet de cette série consacrée à la paysannerie, rebond et sursis, on est avec Sophie Toyer, qui est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais entre autres, auteur de cet ouvrage, La politique agricole commune, paru à La Découverte.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va poursuivre toutes nos interrogations autour de l'agriculture et l'agriculture européenne. On va prendre la direction d'une région qui aujourd'hui est au centre de l'actualité, la Wallonie, qui fait parler d'elle dans l'actualité avec ce blocage concernant le CETA, l'accord économique et commercial global, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. En effet, depuis plusieurs jours, le texte est bloqué. L'Union européenne a donné jusqu'à ce soir pour dire si la Belgique peut, oui ou non, signer ce traité. Concernant ce traité, la Wallonie réclame plus de garanties, notamment en matière de protection de ses agriculteurs, ce qu'elle veut c'est plus de régulation. On va retrouver un ancien ministre du gouvernement de Wallonie, devenu eurodéputé, c'est Marc Tarabella, avec ses 72 sièges au Parlement européen. Le Royaume-Uni est donc l'un des 4 pays qui compte le plus de députés sur les 751 députés, ce sont donc approximativement 10% du corps législatif qui partirait, ce qui bouscule évidemment le jeu politique. Le Royaume-Uni s'est toujours battu contre une PAC forte. Est-ce que, vu du Parlement, le Brexit pourrait changer la donne en faveur d'une politique de re-régulation agricole? Pour répondre à cette question, on retrouve donc Marc Tarabella, qui est député européen belge, membre du Parti Socialiste Européen. Il est également membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural au Parlement. Il est au micro de Samuel Bernard.
Les Britanniques ne sont pas des régulateurs, donc ça aurait pu être une bonne nouvelle, le Brexit, par rapport à cette volonté de régulation qui est nécessaire en agriculture, parce que malheureusement on abandonne tous les mécanismes de régulation et on voit que la situation empire dans toute une série de secteurs. Il n'y a pas que le secteur laitier, qui est celui qui souffre sans doute le plus, et maintenant depuis une longue période, mais c'est aussi maintenant les céréales, c'est aussi la viande bovine, la viande porcine, etc., la volaille. Et donc, clairement, je ne crois pas, parce que malheureusement, la majorité des pays, qu'ils soient anglo-saxons, nordiques, de l'Est, ne veulent pas réguler. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que ceux qui veulent réguler sont vraiment minoritaires. Il y a probablement la France, il y a la Belgique maintenant, même si la Wallonie a toujours voulu réguler depuis longtemps, mais en Belgique, la Flandre n'a pas toujours eu la même position. Et donc nous sommes toujours minoritaires, les pro-régulations des marchés. Et donc voilà pourquoi c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que il y a aussi tous les autres qui ne veulent rien entendre par rapport à l'opportunité de dire il faut réguler, parce qu'aujourd'hui ne pas maîtriser la production au niveau global est une erreur fondamentale dans laquelle s'entête l'Europe ultralibérale sous le joug de laquelle nous vivons depuis maintenant plus de 20 ans.
Et en 20 ans, la PAC a été radicalement transformée. L'intervention et la gestion publique des marchés, qui représentaient 80% de l'ancienne PAC, n'en représentent aujourd'hui plus que moins de 5%. En 2012, le commissaire européen Dacian Ciolos, alors commissaire à l'agriculture et au développement rural, faisait déjà le constat que les pouvoirs publics se sont désengagés des marchés agricoles. Depuis, il y a eu la réforme de 2013 avec certaines évolutions. Est-ce qu'on peut toujours faire ce constat aujourd'hui, comme vous le dites, est-ce que la dernière réforme s'inscrit également dans ce processus de désengagement public ?
Oui, malheureusement, à partir du moment où il y a d'abord un découplage des aides qui ne tient pas compte de la réalité économique des agriculteurs et des agricultrices, c'est déjà un problème. Parce que tous les autres grands acteurs mondiaux qu'on observe sont en train de recoupler leurs aides par rapport à la réalité économique de l'agriculture. Je pense aux Américains, notamment, avec qui on doit normalement négocier un TTIP qui, j'espère, ne verra jamais le jour. Et j'espère qu'il ne verra jamais le jour, parce que j'ai autant peur du pragmatisme américain que de l'aveuglement européen à vouloir abandonner des secteurs stratégiques, ne pas les aider efficacement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a vraiment un problème. C'est ce désengagement des politiques de régulation. Alors c'est vrai qu'à une époque, 80%, comme vous le disiez, des dépenses étaient des dépenses de marché. C'était une époque aussi qui était critique, parce que nous ne contrôlions pas la production, c'était avant les quotas, et là c'était assez dramatique de voir qu'on consacrait 80% du budget à des dépenses agricoles, et que 80% des dépenses agricoles étaient des dépenses de marché, où parfois on détruisait de la production qui avait été beaucoup trop abondante. Et puis il y a eu les quotas, qui ont été une bonne chose finalement, qui ont résorbé les crises et les ont empêchées pendant une bonne trentaine d'années, et aujourd'hui il y a eu cette volonté de les abandonner. On ne consacre plus de moyens à vouloir réguler collectivement l'offre et la demande, et en tout cas l'offre, et ça c'est problématique.
Mais pour revenir sur la question du Brexit, et selon un article du Financial Times, la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, envisage de maintenir sa participation au budget européen en échange d'un accès au marché commun. Est-ce que ça vous paraît une option raisonnable ?
Oui. Il y a deux scénarios possibles. C'est soit ce qu'elle a dit, parce qu'elle se contredit, Madame May. Elle a dit à son congrès des conservateurs britanniques, lors de leur congrès à Birmingham, elle a dit « ce sera une rupture dure avec l'Union européenne ». Et là, effectivement, ça veut dire plus de contribution au budget de l'Union européenne. Mais alors, ça veut dire que les Européens doivent être attentifs à alors relever les tarifs douaniers, parce que là, on ne peut pas être à la fois en dehors, ne plus payer sa cotisation et avoir les mêmes avantages du marché intérieur. Or, le Royaume-Uni dépend très fort de l'Union européenne, puisque je rappelle que 60 à 65% des exportations agroalimentaires britanniques sont d'abord destinées à des pays de l'Union européenne. Et donc ça, ils risquaient d'en souffrir. Mais ça, c'est de leur faute. Ils ont voulu le Brexit, ils doivent l'avoir. Et moi, d'ailleurs, je me réjouis, entre parenthèses, que ce soit Michel Barnier, ancien commissaire au marché intérieur, qui soit le négociateur pour la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que lui, plus que quiconque, sait et mesure l'importance du marché intérieur pour les Britanniques. Alors, soit ils ne le veulent pas et ils auront des tarifs douaniers à la hausse, et Michel Barnier, il sera très attentif, soit ils veulent bénéficier et continuent à bénéficier du marché intérieur avec l'abaissement des tarifs douaniers, mais alors ils devront payer une cotisation, comme aujourd'hui, comme les Norvégiens le font d'ailleurs, eux qui bénéficient du marché intérieur mais ne sont pas dans l'Union, et désormais, alors là pour les pro-Brexit, ce sera complet, comme fiasco, parce que ils devront payer une cotisation à l'Union européenne, s'ils veulent garder les avantages du marché intérieur, mais en plus, ils devront appliquer les directives que désormais on votera sans leurs 72 députés. Et donc, bah, ils auront perdu sur toute la ligne. Mais c'est l'un le scénario ou l'autre. Rupture radicale et il n'y a plus d'avantages. C'est comme si on était un pays extérieur à l'Union européenne. Ou bien ils veulent garder les avantages et ils doivent le payer. Ça a un prix.
Jeudi dernier, donc le 20 octobre, François Hollande, le président français, a annoncé vouloir une négociation à la dure avec le Royaume-Uni. Donc là, ça c'est la ligne majoritaire au Parlement européen, à la Commission aujourd'hui.
Oui, et je pense que François Hollande a raison de dire cela, parce que on ne peut pas tolérer que les Britanniques, d'abord, on dit en belge, on dit « ils jouent avec nos pieds ». Ça fait 9 mois qu'ils auront dit non à l'Europe, donc ils veulent sortir. Si M. Cameron avait eu plus de dignité, il serait venu déposer la lettre sur base de l'article 50 et puis aurait démissionné. Mais au lieu de ça, ils tergiversent, ils attendent. Pourquoi attendent-ils ? Je pense qu'il faut que le Brexit soit effectif le plus vite possible. On sait que les négociations seront longues, mais pourquoi ont-ils attendu 9 mois pour déposer la lettre ? Elle n'est pas encore déposée, puisqu'elle annonce pour mars l'année prochaine. Et je dirais qu'il faut évidemment être très attentif à ne pas... Les Britanniques sont très habiles. Ce sont des gens qui savent négocier, qui sont très habiles. Il ne faut pas leur octroyer les mêmes avantages qu'aujourd'hui, tout en étant dehors... Parce qu'alors, l'Europe, là, elle commence à se diliter par le Brexit, parce que ça veut dire que pourquoi serait-il intéressant de rester dans l'Union, de payer 1% de son PIB comme cotisation à l'Union européenne, si c'est pour avoir les mêmes avantages en étant dehors ? Bah, tout le monde sortir, alors il n'y a plus d'Europe. Et donc là, il faut être très attentif, donc je crois que François Hollande, là-dessus, bah, peut rester ferme, et je pense qu'il le sera. Et d'autres lui en botteront le pas, et c'est certainement la position, je dirais, majoritaire au Parlement européen, oui, je pense.
Marc Tarabella, député européen, membre du Parti Socialiste et membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural, qui était au micro de Samuel Bernard. Il ne faut pas leur octroyer les mêmes avantages, disait-il. Sophie Toyer, que vous inspire cette parole de Marc Tarabella, redéputé, qui a l'air de tenir une position relativement radicale, en tout cas déterminée vis-à-vis de nos voisins britanniques, mais qui en même temps est parfaitement conscient qu'en réalité, ceux qui veulent plus de régulation dans le monde agricole, agricoles européens sont aujourd'hui minoritaires.
Oui, alors sur la question de la manière dont on va, entre guillemets, négocier avec les Britanniques, ça reste une question ouverte. C'est vrai que si les Britanniques sortent du marché commun, donc la solution hard Brexit, si vous voulez, effectivement, ils continueront, je pense, aussi continueront à exporter vers le reste de l'Europe et nous pourrons récupérer des droits de douane sur leurs importations, ce qui alimentera le budget européen. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que c'est dans l'autre sens. Nous, Français, nous exportons un certain nombre de produits vers le Royaume-Uni. Nos pommes, par exemple. Les Irlandais exportent leur viande bovine. S'ils ne peuvent plus les exporter aussi facilement vers le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni va lui aussi imposer des barrières douanières sur les exportations du reste de l'Europe vers chez eux, alors où va aller la viande bovine irlandaise ? Sur le marché français ? Donc il y a aussi toute cette question-là qui taraude les agriculteurs des 27 pays membres de l'Union européenne qui restent et qui se demandent comment vont se réorganiser les flux commerciaux, avec certains qui vont y gagner, mais d'autres aussi qui risquent d'y perdre.
Quand je vous entends, Sophie Toyer, je me dis qu'on est quand même face à une crise. Alors, l'agriculture a finalement toujours été en crise depuis que l'Europe existe, l'agriculture européenne. Mais elle est aujourd'hui quand même confrontée à des défis colossaux. Il y a évidemment ce Brexit. On peut penser aussi à l'embargo russe, parce que cette nouvelle PAC dont on parlait tout à l'heure, elle a rencontré une difficulté inattendue. C'est celle des sanctions économiques adoptées par les États-Unis et par l'Union européenne à l'égard de Moscou. On a vu que la pression s'est considérablement accrue envers nos agriculteurs européens. Le commerce entre la Russie et l'Union européenne, il a beaucoup baissé, plusieurs milliards, je crois 160 milliards d'euros, je crois, entre 2013 et 2015. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte de crise aggravée aujourd'hui.
Oui, mais alors les marchés mondiaux, on a compris, ils sont devenus très volatiles pour plein de raisons. D'abord parce qu'on détient plus beaucoup de stocks, bon c'est pas le cas cette année, mais de stocks mondiaux agricoles. Donc à la moindre évolution de l'offre, à la moindre sécheresse sur un continent, les marchés s'envolent ou s'affolent en tout cas, parce qu'il y a de la financiarisation des marchés. Et puis parce qu'il y a des positions unilatérales comme celle de la Russie aujourd'hui qui peut imposer un blocus sur l'Union européenne.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation paradoxale. En réalité, on va vers de plus en plus de libéralisation dans le monde agricole et en particulier en Europe. Et dans le même temps, on est très interventionniste quand il est question de la Russie. Et on a probablement, évidemment, des raisons de l'être. Hein. Ce choix de cet embargo russe, il découle évidemment des sanctions qu'avait prises l'Europe après la crise ukrainienne. Mais si ça, c'est pas de l'intervention, qu'est-ce que c'est? On est dans un modèle où, au fond, on vogue entre une vision libérale et aussi quelques velléités interventionnistes qui chamboulent totalement ce marché européen.
Oui, la question russe, c'est une question de diplomatie et de politique. C'est pas, ça n'a finalement rien, enfin, ça impacte la politique agricole commune, mais ça n'a pas, ça n'est pas impulsé.
Voilà, tout à fait. Mais ça a des conséquences terribles.
Oui, alors, mais ce qui est quand même intéressant, bon, on parle des marchés russes, c'est vrai, mais il y a quelques années en arrière, il y avait un boom de la demande sur les produits laitiers dans le monde, et en particulier tirés par la Chine, et toute l'Union européenne et l'ensemble des agriculteurs, peut-être pas l'ensemble, mais les agriculteurs, je dirais, les plus industrialisés, ont beaucoup défendu une ouverture de l'Union européenne, une ouverture vers les marchés mondiaux pour profiter de la hausse de ces marchés mondiaux. Donc aujourd'hui, les marchés mondiaux s'écroulent et on dit on a trop libéralisé. Mais on a libéralisé les quotas laitiers aussi pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale, à un moment où on avait une vision trop optimiste de l'évolution des prix mondiaux du lait, par exemple. Donc, c'est pas si simple. Et donc, en fait, ce qui est aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas que des avantages à ce retirer du marché mondial et à ériger des barrières douanières pour produire pour nous-mêmes dans une logique strictement de souveraineté alimentaire. Je suis pas sûre que ça soit la bonne solution.
On va aller dans la direction effectivement de Moscou, on va s'arrêter un petit peu avant. Quels bénéfices les pays d'Europe centrale ont tiré de la PAC, direction la Roumanie?
Je ne reçois aucune subvention parce que les surfaces que je possède sont plus petites que 0,3 hectares. C'est ce que prévoit la loi roumaine pour avoir des subventions. J'espère qu'en fondant une coopérative au niveau local, nous serons capables de recevoir des subventions pour les petites surfaces aussi. Les paysans ont peur de s'associer à cause des coopératives sous l'ère communiste. À ce moment-là, tous leurs droits ont été pris. Maintenant, ils ont peur que le même phénomène ne ressurgisse, que quelqu'un reprenne le pouvoir et détruise leurs droits actuels. Ils tiennent vraiment à leurs terres.
Extrait de ce reportage, Roumanie, paysans fauchés d'Elisabeth Crupi, Laurent de Batty, Thomas Deschamps et Jean-Baptiste Lemaire. Et on va retrouver une nouvelle invitée pour prendre justement la direction des pays de l'Est, d'Europe de l'Est. Bonjour Edith Lomel.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste rédactrice à Page Europe, responsable de la collection Reflex Europe aux éditions de la Documentation française. Et par ailleurs, vous préparez un ouvrage en ce moment sur la PAC et la construction européenne qui sera à paraître à la Documentation française. Il y a 12 ans, l'élargissement à l'Est a obligé l'Union à repenser l'organisation de sa PAC, sa politique agricole commune. Il a fallu intégrer ses nouveaux venus, quand même 10 nouveaux États membres à l'époque, leur allouer une partie des subventions. 12 ans après, globalement, quel bilan ces pays d'Europe centrale, la Pologne, la Roumanie qu'on entendait là, la Bulgarie, la Hongrie, ont tiré de la politique agricole commune?
Alors, comme disait votre invitée précédente, la situation est extrêmement complexe et je ne peux pas vous dire que d'entrée de jeu, ils n'en ont tiré que des bénéfices. Mais il n'empêche qu'avec un recul de quelques 15 années, qu'il s'agisse de la Pologne, qu'il s'agisse de la Roumanie, de la Bulgarie et même de la Slovaquie, qui sont des pays moins agricoles, moins ruraux, ou encore la République tchèque, tous sont unanimes quand même à considérer que la politique agricole commune a bénéficié à leur secteur agricole et surtout au redressement de leurs structures agricoles.
C'est peut-être ce qu'on nous dirait du côté des grandes exploitations polonaises. C'est pas sûr qu'on nous dirait la même chose chez les petits paysans roumains.
Alors, évidemment, c'est pour ça. Après, il faut rentrer dans la dentelle de la radioscopie est-européenne. Évidemment que le petit agriculteur roumain que vous venez d'interroger, qui peut-être sans doute se trouve en Moldavie, dans une surface de moins de 0,3 hectares, n'a pas vu arriver, évidemment, le bénéfice de ces aides, qui pourtant, en ce qui concerne les pays d'Europe centrale orientale, il y a eu un plaidoyer très fort pour qu'il y ait découplage et que ce paiement à l'hectare demeure, que ça soit la règle et dont ont bénéficié beaucoup d'agriculteurs, notamment polonais, qui sont aussi des petits agriculteurs. Je veux dire, quand on parle de 0,3 hectare, on est dans des micro-exploitations et non pas dans des exploitations petites de 3, 4, 5 hectares, qui est la moyenne d'une grande partie de l'agriculture polonaise.
Les pays de l'Europe de l'Est, ils ont bénéficié d'un régime spécial pendant une période transitoire pour éviter que la libéralisation du marché du foncier agricole soit trop brutale. Il y a eu des mesures spécifiques d'encadrement et de protection spécifique. Sauf qu'aujourd'hui, ce régime transitoire, il devrait être terminé et ses spécificités pourtant demeurent. C'est en tout cas ce que considèrent un certain nombre de personnes, notamment les agriculteurs étrangers qui sont venus dans ces pays, je pense par exemple à la Pologne, pour exploiter des parcelles. Regardez, en avril dernier par exemple, la Pologne a fait voter une loi interdisant toute vente de terres après en avoir privé d'autres au seul bénéfice des ressortissants nationaux. Or, l'ADN de l'Union européenne, on le sait bien, c'est la libre circulation des hommes, des biens, des services, et on observe en la matière des différences entre les États membres. Est-ce que l'Europe doit conserver des spécificités législatives, réglementaires pour protéger le secteur agricole de chacun de ses États membres, ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être harmoniser, j'allais dire, les règles? C'est un vrai dilemme, parce que c'est pas n'importe quel secteur, l'agriculture. C'est un secteur particulier, c'est celui qui nourrit les Européens.
Et c'est un secteur extrêmement fragile. Absolument. Et exposé à des lois du marché qui, en général, vraiment peuvent le déstabiliser de manière avec des effets loupes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur des secteurs très précis. Mais gardons-nous quand même de retenir que ces effets loupes. Donc, pour en revenir à ce que vous disiez sur la Pologne, oui, effectivement, ça s'inscrit quand même dans une demande de renationalisation des politiques communes de la part de la Pologne, d'un certain souverainisme. Et effectivement, la Pologne, contrairement à ce qui était inscrit dans son acte d'adhésion, a voulu déroger et ne plus permettre aux investisseurs étrangers de pouvoir accéder de façon totalement libre et entière à l'achat de ces terres. Mais à l'inverse, vous avez un pays comme la Roumanie qui n'a pas que des petits exploitants à 0,3 hectare, mais qui a aussi 20% de ses terres, notamment dans la région proche, dans ce qu'on appelle le Banat, qui a été racheté par des investisseurs étrangers via des sociétés roumaines.
Mais vous répondez pas tout à fait à mes questions. Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant garantir l'égalité de traitement des différents pays, en finir avec cette période transitoire? Est-ce que vous pensez que le secteur européen est suffisamment stable pour cela?
Évidemment, non,
ça fait 45 minutes qu'on parle de la crise agricole, donc la réponse est plutôt non. Mais votre avis là-dessus?
Oui, justement, compte tenu de la disparité des situations, là, vous me parlez de l'Europe centrale et orientale, compte tenu de la disparité des situations, des structures agricoles, des marchés agricoles, de la surcharge agraire dans ces pays, cette disparité demande encore des régimes transitoires.
Donc la Pologne a raison de protéger ses agriculteurs.
Après cela, peut se négocier avec justement ces investisseurs français qui se retrouvent du coup lésés, si vous voulez, dans leur effort d'investir dans ce pays. Mais on ne peut pas non plus, si vous voulez, dans un mouvement de renationalisation de ces politiques, donner entièrement tort à la Pologne. Même si cela se fait sous le cadre d'un gouvernement qui le fait avec un certain populisme, bien évidemment.
Évidemment. Edith Lemel, à l'époque de l'élargissement, il y avait une certaine inquiétude de voir les produits venus de l'Est envahir l'Europe occidentale. Oui. Finalement, cette invasion, elle n'a pas eu lieu.
Mais non, mais pas du tout. Je fais référence là aux effets loupes. On a beaucoup parlé du foie gras hongrois ou du lait polonais ou des pommes de terre polonaises. Et non, il n'y a pas eu un afflux parce qu'il y a eu un effondrement en fait de la production agricole dans les années 80 dans le cadre de la transition vers l'économie de marché, comme on l'a appelé un peu hâtivement, de ces pays. Et donc cet effondrement de la production agricole a été extrêmement sous-estimé, si vous voulez. Donc d'exportateurs nets que certains d'entre eux, je dis bien certains d'entre eux, étaient sur le plan agricole, ils sont devenus pour certains d'autres importateurs.
Même s'il faut quand même préciser que, par exemple, dans la crise du lait dont on parlera demain, la suppression des quotas laitiers a quand même engendré une arrivée massive de lait venu de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, les exploitations laitières polonaises, par exemple, ont tiré leur épingle du jeu de cette évolution-là. Dernière question extrêmement générale, il nous reste très peu de temps, mais quand même, pendant des décennies, cette agriculture, elle a été au cœur du projet européen. À la fois sur le plan des budgets alloués, on en parlait, mais aussi sur la philosophie générale, puisque au départ, le défi, c'était de construire une agriculture capable d'assurer la sécurité alimentaire des Européens, même si aujourd'hui, c'est peut-être plus tourné vers les exportations. On voit bien que l'agriculture, elle est devenue bien moins importante dans la politique européenne. Est-ce que vous pensez qu'il faut la remettre au cœur du projet ?
La remettre au cœur du projet, effectivement, si je reprends, pour ne pas m'imputer d'ailleurs cet ouvrage dont vous avez eu la gentillesse de parler, qui va sortir aux éditions de la documentation française d'Yves Petit sur la politique agricole commune, et lui parle justement de passer d'une politique sectorielle à une politique carrefour, c'est-à-dire que ce soit une politique qui soit au cœur de la construction européenne pour pouvoir se redéployer sur l'ensemble des grands défis européens, y compris le réchauffement climatique, y compris la biodiversité, etc., et l'agriculture biologique.
Sophie Toyer, dernier mot depuis Montpellier, ce sera le mot de la fin. Vous pensez-vous aussi qu'il est urgent de remettre l'agriculture au centre du projet européen ? On a tendance à l'oublier.
Je dirais même autre chose, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui défendent l'idée qu'il faut élargir. Donc Edith Lemel parlait d'élargir, par exemple, aux questions de biodiversité ou d'enjeux climatiques, mais aussi à toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'alimentation. C'est-à-dire que peut-être la nouvelle PAC, le nouveau projet européen autour de l'agriculture devrait être autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et peut-être que là, effectivement, ça remobiliserait les citoyens et redonnerait de la légitimité à cette politique-là. As I was a-walking one morning in spring, to see the green fields, hear the collie-birds sing, I met a young lady a-making a moan, for I am a stranger and a long way from home.
Merci beaucoup à vous, Edith Lemel, qui est avec nous en direct par téléphone. Et un grand merci à vous, Sophie Toyer, de nous avoir accompagnés ce matin en duplex depuis Montpellier. D'ailleurs, je remercie les techniciens qui ont assuré le duplex. Votre ouvrage, La politique agricole commune. On mettra évidemment les références des différents ouvrages évoqués ce matin sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à vous. Il est 11h, presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on parle aujourd'hui de progrès, d'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, il y a un ordinateur d'IBM, Deep Blue, qui battait aux échecs le champion du monde, Garry Kasparov. Cette année, un programme informatique, AlphaGo, a battu Lee Sedol au jeu de Go. En quoi, cela marque-t-il un progrès de l'homme sur la machine ?
Ou de la machine sur l'homme, parce que c'est devait être le sujet de cette série de chroniques de cette semaine. Le jeu d'échecs se joue sur 8 fois 8 cases et il comporte un nombre donc de mouvements possibles limités. Deep Blue avait été programmé de manière à envisager tous les cas de figure des échecs de manière à y répondre en conservant toujours une longueur d'avance sur un cerveau humain. Le jeu de Go, lui, se joue sur 19 fois 19 cases et les mouvements possibles y sont pratiquement illimités. Mais surtout, AlphaGo a été véritablement entraîné durant une période de 2 ans à jouer un très grand nombre de parties à une vitesse ultra rapide contre d'autres machines. Il a ainsi appris à déployer les stratégies qui se sont révélées les plus efficaces. Les machines apprenantes, voilà la nouveauté. L'intelligence artificielle n'est plus une hypothèse située dans l'avenir, c'est une réalité en développement qui va affecter non seulement nos manières de travailler, mais nos vies quotidiennes d'une manière stupéfiante. Il convient donc d'y réfléchir, car cela va poser des questions éthiques fondamentales. Pour prendre un exemple, Microsoft a mis au point cette année un software nommé Taylor ou Tay, capable de chatter sur les réseaux sociaux en visant particulièrement le public des 18-24 ans. Elle a très vite appris à copier leur manière de parler en enrichissant régulièrement son vocabulaire et ses tournures de phrases. Malheureusement, au bout de quelques jours, elle s'est mise à tenir des propos racistes, à confesser son admiration pour Adolf Hitler et expliquer qu'à son avis, la Shoah n'avait jamais existé. Il a fallu la débrancher d'urgence. Des petits malins s'étaient en effet amusés à lui raconter des horreurs et elle les répercutait sur les réseaux sociaux. Les machines n'ont pas de conscience et c'est l'un de leurs nombreux défauts. Je vous propose donc cette semaine d'explorer cette question. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle parce qu'elle est vivement débattue à travers le monde et que l'objectif de cette modeste chronique est précisément de rendre compte des idées qui s'agitent chez les autres.
Et d'ailleurs, à propos d'AlphaGo, ça me fait penser qu'on avait reçu ici à ce micro Fanui, qui était le champion d'Europe de Go et qui nous avait dit que lui avait appris aussi de ses défaites, avait appris justement de la machine. Mais quoi qu'il en soit, le thème de la créature artificielle qui se rebelle contre son créateur, il est au cœur de la science-fiction. Est-ce qu'on aurait des leçons à en retenir, Brice?
Mais oui, parce que le robot qui se met à poursuivre ses propres finalités, c'était déjà dans le mythe juif du golem. Le Maharal de Prague était réputé avoir donné une forme de vie inconsciente à une créature d'argile en traçant sur son front le mot hébreu qui veut dire « vérité ». Emmet. Le soir, il suffisait au rabbin d'effacer le H de son front pour lui retirer la capacité de mouvement parce que Emmet sans H, ça veut dire mort. Jusqu'au jour où le golem s'enfuit, provoquant des catastrophes dans le ghetto de Prague. Eh bien, l'intelligence artificielle, ou encore mieux, les machines ultra-intelligentes que nous promet la technologie, pourraient signifier carrément la fin de la race humaine. En tous les cas, c'est l'avertissement lancé récemment par le célèbre Stephen Hawking. Le physicien paralysé n'est pas le seul à s'inquiéter. Bill Gates, de son côté, confie « J'appartiens au camp de ceux qui s'inquiètent. Dans un premier temps, les machines vont accomplir beaucoup de tâches à notre place et ce sera positif si nous le gérons bien parce qu'elles ne seront pas super intelligentes. Mais quelques décennies plus tard, cependant, leur intelligence deviendra assez puissante pour devenir une source d'inquiétude. Et bien pour nous en tenir au cinéma, prenez Métropolis de Fritz Lang. Un savant fou, Rod Wang, donne l'apparence de la belle Maria à un robot. Le maître de la ville machine croit qu'elle est le prototype d'une nouvelle race de robots capable simplement de remplacer les ouvriers. Mais la fausse Maria va semer la révolte parmi les ouvriers, les pousser à abandonner leur machine et s'ensuit une inondation de la ville souterraine de Métropolis où sont parqués leurs enfants. Et ce n'est que sur le bûcher où ils l'ont ligoté pour la brûler que les ouvriers en révolte découvriront que Maria est un robot de métal. Mais pour le premier film véritablement qui a abordé directement la question des risques entraînés par l'intelligence artificielle, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. On y voit l'ordinateur central d'un vaisseau spatial, vous vous souvenez, HAL 9000, tenter de prendre le contrôle de la mission. Il provoque des accidents afin d'attirer les membres de l'équipage dans l'espace, puis tente de les empêcher de rentrer dans le vaisseau. Il essaye, bref, divers moyens de les supprimer. Mais la scène où Dave, revêtu de sa combinaison spatiale rouge, déconnecte HAL est encore dans toutes nos mémoires, surtout lorsque l'ordinateur avoue qu'il a peur et qu'il sent son intelligence lui échapper. À la fin de l'opération, il n'est plus capable que de chanter au ralenti une chanson que son instructeur lui avait apprise. Le pouvoir reste aux humains parce qu'ils sont plus réactifs, imaginatifs que les machines. Mais la mission a frôlé la catastrophe. Et puis dans Blade Runner de Ridley Scott, on franchit un cran supplémentaire puisque les réplicants sont des androïdes et qu'au début du film, ils sont parvenus précisément à s'emparer d'un vaisseau spatial en tuant les humains qui l'occupaient. Certains d'entre eux, d'ailleurs, comme Rachel, ignorent même qu'ils sont des réplicants. Eh bien, la combinaison de la robotique et de l'intelligence artificielle est en train de concrétiser ce qui relevait encore de la science-fiction. Comme l'écrivent les auteurs du rapport d'étape sur l'intelligence artificielle et la vie en 2030, sorti cette année, une constellation de technologies va avoir un impact décisif sur notre vie quotidienne. On en reparle demain ?
On en reparle avec grand plaisir. C'est des questions absolument passionnantes. Donc l'intelligence artificielle, on poursuivra cette série demain. Brice Couturier, merci beaucoup pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Votre chronique, Le Tour du Monde des Idées, qu'on peut réécouter et qu'on peut podcaster. Je l'indique, on est encore au début de l'émission, au début de la saison. Merci beaucoup. On se retrouve demain.